BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Et on rejoint Thibaut François pour entamer cette deuxième heure de BFM Patrimoine. Thibaut qui nous attend chez Fastea Capital à Nantes. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Bon, début difficile et deux semaines et deux mois et deux derniers trimestres.
Ouais, c'est un peu compliqué. Le cercle vicieux s'amplifie, on va dire, ou presque. Le marché est vraiment déprimé. Encore un 32 baisse ce matin. On est à 5686 sur le CAC 40. Les PMI, notamment manufacturiers sur la partie zone euro, sont sortis en dessous des attentes et au plus bas depuis juin 2020. Donc c'est la tendance post-Covid. On a l'OPEP qui devrait réduire sa production et ce qui entraîne le marché du pétrole à la hausse. On est autour de 89 dollars sur le Brent, en hausse de 4%. L'euro-dollar reste en dessous de 1 point, on est au 0,98 avec des taux qui sont stables autour de 2,75. Donc tout ça est plutôt, on va dire, de mauvais augure, en tout cas pour aujourd'hui, peut-être pour les prochains jours et semaines. On a toujours de la décollecte dans les fonds, sur toutes les zones, sur toutes les classes d'actifs, que ce soit le monétaire, les obligations et les actions, c'est toujours des flux négatifs. Et donc, ça entraîne forcément la baisse des marchés et des différentes classes d'actifs. Le mois de septembre a été vraiment catastrophique. Après un mois de juillet qui a été plutôt bon sur le trimestre, mais on finit un trimestre vraiment très difficile sur le troisième trimestre. Et on n'a toujours pas de visibilité pour le quatrième trimestre. Il semblerait que les entreprises tiennent bon. Ça, c'est plutôt les bonnes nouvelles. On a eu des publications rassurantes cet été avec des tendances qui sont pas si mauvaises que ça. Donc, on va voir maintenant, on va voir un petit peu les chiffres sur le troisième trimestre. Ça devrait arriver d'ici une dizaine de jours sur les différentes publications. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choses positives à se mettre sous la dent. Or, à part le pétrole qui rebondit et donc les valeurs pétrolières qui sont plutôt en tête du palmarès ce matin.
Justement, mettons un peu l'accent sur ce marché pétrolier et sur certaines de ces valeurs, dont Technip.
Oui, on a Technip Energy qui rebondit ce matin, gagne 1,5%. Encore des contrats. Alors même si c'est pas sur le secteur pétrolier en tant que tel, parce que Technip Energy travaille avec vraiment toutes les entreprises industrielles et de services. Technip Energy, pour rappel, c'est vraiment une scission de Technip FMC qui est vraiment sur la partie pétrolière. Technip Energy, on est vraiment sur du décarbonage de la partie industrielle. Aujourd'hui, c'est une société qui a un gros carnet de commandes et elle l'augmente encore aujourd'hui ce matin avec un contrat entre 250 et 500 millions d'euros. Donc ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. On n'a pas de dette sur cette entreprise et la très honnête couvre entièrement la capitalisation boursière du titre. Donc le risque est extrêmement faible. On a une forte génération de cash flow. Donc c'est pour ça que c'est plutôt bien orienté ce matin. Mais c'est pratiquement comme tout le secteur pétrolier qui rebondit aujourd'hui. On a Vallourec qui prend un peu plus de 4%, on a CGE qui prend un peu plus de 2%. Le marché est vraiment entraîné, le marché pétrolier est vraiment entraîné par les propos de l'OPEP qui devrait réduire sa production dans les prochaines semaines. Et donc on a un baril qui flirte avec les 89 dollars ce matin.
Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, donc Fastea Capital et ce marché parisien qui pour le moment est en repli, moins 45%. Bon, on essaye peut-être d'organiser, non pas un rebond, mais une limite de la baisse, 5678 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Mathieu Loire. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Pour AXA IM et Emmanuel Lechypre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Pour BFM Business. D'abord votre regard, on débute le dernier trimestre, donc il faut qu'on essaye de se projeter un petit peu. Mathieu, est-ce que vous avez l'impression que les mauvaises nouvelles, on va les détailler ensuite, mais sont déjà finalement dans les cours ou pas complètement? En clair, est-ce que on peut imaginer, peut-être pas un rallye, mais une meilleure météo pour la fin de l'année?
Alors, les mauvaises nouvelles, il y en a quand même une quantité astronomique. Hein. Donc, avant que ce soit complètement intégré dans les cours, ça va mettre un petit peu de temps. Donc, bon, il me semble qu'on n'est pas encore arrivé à la fin de cette correction. On pourrait avoir des rebonds techniques liés au fait que le positionnement maintenant est extrêmement léger hein, des investisseurs. On a eu des investisseurs qui ont réduit la voilure de façon assez significative, mais... Bon, en face de ça, on a des valorisations qui, de mon point de vue, ne reflètent pas encore complètement les mauvaises nouvelles. Alors, les mauvaises nouvelles, c'est quoi? C'est qu'on va se diriger vers une récession aux États-Unis et en Europe pour 2023. Elle pourrait commencer d'ailleurs, comme c'est le cas par exemple en Italie, dès la fin de 2022, dès la fin de cette année. Et puis une récession un peu plus tardive aux États-Unis en 2023. On est dans un environnement donc d'un point de vue macroéconomique et ensuite d'impact sur les bénéfices des entreprises qui est mauvais et qui restera mauvais pendant un certain temps. En face de ça, vous avez quoi ? Vous avez des banques centrales qui resserrent de façon massive leur politique monétaire. Donc des banques centrales qui resserrent leur politique monétaire de façon extraordinairement violente, hein, puisque c'est le resserrement monétaire le plus violent depuis le début des années 80 aux États-Unis, hein, depuis l'époque Volcker. Et en zone euro, ce sera probablement le resserrement le plus violent depuis la création de l'euro. Eh bien, on est dans une situation où ralentissement de la croissance avec des banques centrales qui appuient encore un peu plus sur le frein, c'est de nature à faire baisser de façon importante les bénéfices. Le consensus aujourd'hui de marché n'intègre pas encore complètement justement ce scénario de récession. On est toujours sur des croissances attendues à 12 mois des bénéfices qui sont supérieures à 5%, là où en période de récession, c'est plutôt, alors suivant les marchés, entre 15 et 20% de baisse des bénéfices par action.
Bon, on le voit dans l'exposé de Mathieu, Emmanuel, les sujets ne manquent pas. Il y a l'Angleterre, il y a l'Italie, il y a les banques centrales. On commence par quoi ? Peut-être par l'Angleterre, parce qu'on a du nouveau, entre guillemets, puisque Liz Truss a découvert la marche arrière.
Oui, c'est là où on voit bien qu'on est confronté à un automne de tous les dangers, en fait. Moi, je suis pas particulièrement pessimiste pour 2023. Il y a pas mal de signaux qui sont... Mais il y a quand même un automne qui est un véritable mur à passer. C'est un mur énergétique, c'est un mur d'inflation, c'est un mur de grogne sociale, c'est un mur de hausse des taux d'intérêt, et on peut vraiment parler de mur, parce que la hausse des taux d'intérêt, elle est quasi verticale. Et donc, face à tout ça, on voit bien que on va avoir des tas de contraintes et de forces qui vont se télescoper. Si vous regardez par exemple les revendications sociales, elles arrivent à un moment où la situation financière des entreprises va se dégrader. Si vous regardez la hausse des taux, elle arrive à un moment où quand même elle est en train de sérieusement malmener les marchés et de les mettre sous un stress qui est quand même extrêmement préoccupant. Le fait d'avoir ce qui se passe sur le Crédit Suisse, le fait de voir que la volatilité est en train de remonter, donc que la liquidité est en train de diminuer, tout ça, on voit que les marchés sont sous stress aujourd'hui, et est-ce qu'ils peuvent encore supporter beaucoup de hausses des taux d'intérêt. Donc moi, comme souvent, il faut craindre que la catastrophe vienne d'erreurs de politique économique et notamment d'erreurs des banques centrales. Et donc on verra. C'est pour ça que je pense que si le resserrement monétaire s'arrête assez tôt, et on voit déjà que il y a des volontés de lever le pied sur le frein dans quelques banques centrales, 2023 peut être peut-être plus, pas flamboyante, mais plus calme. Effectivement. Mais sinon, ça risque de secouer beaucoup, oui, c'est cet automne et au début de l'hiver.
Ce cas anglais, rien ne va plus de voir un pays membre du G7, un des plus riches du monde.
C'est la plus grave crise, honnêtement.
Pointé du doigt par le FMI comme un vulgaire, entre guillemets, pays en voie de développement.
C'est sans doute la plus grave. Alors, il y a eu la fin des années 70, mais on pouvait identifier les problèmes et il y a des solutions d'ailleurs qui ont été apportées. C'est sans doute la plus grave crise économique depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on ne voit pas d'où pourraient venir les réponses, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez un pays qui est suradministré, sursyndicalisé, surfiscalisé, que vous avez un gouvernement qui essaye de donner de l'oxygène à tout ça, comme Margaret Thatcher l'avait fait, on voit que ça fonctionne un peu. Là, on voit bien qu'il y a quand même une méfiance des marchés vis-à-vis des recettes traditionnelles libérales, genre on baisse les impôts, etc., qui est quand même une défiance qui est quand même assez inquiétante.
Comment est-ce que vous voyez les choses sur ce dossier britannique ?
Ça démontre finalement que le marché finalement n'achète plus ces paquets fiscaux qui reposent finalement sur un dividende de croissance à venir, hein, et qui est très hypothétique. Donc on baisse effectivement le taux d'imposition, notamment sur les tranches les plus élevées, et on espère que ce sera auto-financé via de la croissance future. Le problème, c'est que l'autofinancement, dans un monde où les taux d'intérêt montent très violemment, et donc la question du financement se pose, du coût de la dette se pose, et des taux d'endettement qui sont assez astronomiques dans la plupart des économies développées, eh bien, ça ne passe plus. Le marché n'achète plus ce genre de choses. Donc, il y a eu finalement une double erreur du gouvernement britannique. La première, c'est d'arriver avec un plan qui n'était pas autofinancé, donc avec un manque de détails flagrant sur le financement. Encore une fois, dans un monde de taux d'intérêt qui augmente très violemment et de stock de dette très, très important, le marché n'achète plus. Bon, ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est un problème de coordination avec la Banque centrale. La Banque centrale, la Banque d'Angleterre, où là, on a vu la Banque d'Angleterre devoir réagir en catastrophe, venir complètement flouter son message, puisque le message de la Banque d'Angleterre, c'est nous remontons les taux d'intérêt, nous rentrons dans une phase de réduction de notre bilan en vendant des actifs ou en laissant maturer des actifs. Et là, en catastrophe, ils relancent un plan d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire tout l'inverse, où ils réaugmentent la taille de leur bilan en achetant du papier long pour essayer de stabiliser les marchés. Donc là, on est dans la cacophonie la plus totale, l'anarchie la plus totale, dans un environnement où le marché a besoin de visibilité, de beaucoup de visibilité. Et donc ça, c'est une erreur fondamentale, alors d'ailleurs qui va peser énormément sur la crédibilité à la fois du gouvernement, donc d'un point de vue fiscal, et de la Banque d'Angleterre. La crédibilité aujourd'hui sur les marchés, c'est un actif qui se paye très cher. Donc ça va être très compliqué, effectivement, de revenir au calme sur le cas britannique.
Cette espèce de volte-face, effectivement, est-ce que le cas britannique, il doit ou il peut servir de leçon aux autres banques centrales? Est-ce qu'elles ont... est-ce qu'elles feraient bien de s'inspirer de ne pas faire ce qui a été fait?
Bah, en même temps, les fondamentaux macroéconomiques sont pas les mêmes. Si vous prenez une Europe qui, par définition, a sa monnaie unique avec des pays qui sont dans des situations très différentes, je pense que y a aucun pays en Europe aujourd'hui qui ne se satisfait pas d'avoir l'euro. Imaginez ce que ce serait si on se retrouvait chacun avec nos monnaies nationales. Là, le Royaume-Uni, ils sont vraiment seuls, quoi. Ils l'ont voulu, ils l'ont cherché, ils n'ont aucune force de rappel finalement et sur laquelle pouvoir compter. Les États-Unis, de l'autre côté, on est dans une configuration un peu différente. Aux États-Unis, on a une vraie inflation quand même tirée par la demande. Le mot de surchauffe peut s'appliquer quand même un peu à l'économie américaine. Et donc, on se dit finalement, le pays dans lequel l'adéquation entre les trajectoires économiques et la politique économique est peut-être le plus cohérent, même si, effectivement, il faut corriger une relance budgétaire qui a sans doute été trop forte. Et puis, en Europe, on est dans une situation où on est plus dans une inflation de pénurie. Et où là, on se dit, est-ce que la réponse de la BCE, c'est la bonne réponse? C'est-à-dire, est-ce qu'augmenter les taux quand vous êtes dans une économie de pénurie, c'est la bonne réponse? Donc, la zone dans laquelle la politique économique est moins cohérente qu'aux États-Unis, c'est quand même la zone euro.
Est-ce que d'autres banques centrales doivent regarder avec attention ce qui se passe au Royaume-Uni que vous nous avez décrit pour, entre guillemets, en tirer des leçons?
Alors évidemment, pour la BCE, ça va être très important. Pourquoi? Parce que on a eu la semaine dernière, l'annonce par l'Allemagne d'un plan fiscal géant de 200 milliards, c'est 5% du PIB, pour justement venir soutenir les ménages et les entreprises face au choc énergétique. Donc on parle d'un package qui est quand même très substantiel.
Dont ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire encore.
Alors ce sont des choses qui justement vont s'ajuster. Mais c'est là que c'est très important, c'est que vous avez un gouvernement qui shoot seul, alors qu'il faudrait une coordination au niveau européen. Et puis, qu'est-ce que ça implique aussi pour l'Italie? Avec Giorgia Meloni qui vient d'être élue, on est dans une phase où les taux d'intérêt ont quand même beaucoup monté, très peu de marge de manœuvre. Les Italiens voient les Allemands faire cavalier seul en lançant des grands packages fiscaux. Est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire la même chose? Évidemment que non. Donc là, il va y avoir une articulation entre les différents gouvernements et la politique monétaire qu'il va falloir mettre en place, parce qu'on l'a vu, ça se paye aujourd'hui cash sur les marchés.
Le cas italien, rapidement évoqué, mais il y a un problème italien ou pas, Emmanuel?
Paradoxalement, à long terme, j'ai envie de dire oui. À court terme, on voit bien que sur la politique économique, on est quand même, mine de rien, dans une forme de continuité par rapport à la période Draghi. Mais on se demande même si c'est pas lui qui continue finalement un peu.
Oui, la presse s'est fait écho notamment d'un pacte avec
l'économie italienne. l'Italie, Madame Meloni est quand même moins frondeuse entre guillemets vis-à-vis de l'Europe qu'on l'a vu l'extrême droite l'être dans le passé avec Monsieur Salvini, etc. Elle veut pas sortir de l'euro. Elle a très bien compris tout l'intérêt d'être dans l'Europe. L'Italie attend beaucoup d'argent de l'Union européenne. Donc non, paradoxalement, c'est plus la situation après à long terme de l'Italie, c'est-à-dire que quand vous êtes le pays, vous êtes quasiment même le seul grand pays à avoir une croissance potentielle négative, à avoir une démographie déclinante, et que votre potentiel de croissance est encore une fois quasi nul. Là, oui, à long terme, il y a quand même un certain nombre de questions à se poser. Mais à court terme, je suis pas sûr que ce soit le cas de l'Italie qui soit le plus compliqué.
Un problème italien ou pas ?
Non, pas de problème. Je suis d'accord effectivement qu'il n'y a pas de problème italien à court terme, d'autant que Giorgia Meloni a plutôt l'air de vouloir se diriger sur les sujets régaliens plutôt que sur les questions économiques. Elle a bien compris que dans l'environnement actuel, ce serait faire une erreur colossale que d'aller tester les marchés, se retrouver dans une situation délicate. Donc plutôt concentré sur les sujets régaliens. Donc à court terme, pas de risque majeur pour les marchés. Par contre, ce qui va être très très important, c'est de regarder comment les marchés vont administrer, finalement intégrer les hausses de taux attendues de la BCE, puisque la BCE est maintenant très clairement...
Elle est un peu contrainte aussi, la BCE, non ?
Alors, elle est
par la cadence imposée par la Fed, non ?
Ouais. Alors, elle est contrainte parce qu'elle a décidé de l'être. C'est-à-dire, le point de vue de la BCE aujourd'hui, c'est que le choc qu'on a, c'est un choc d'offre permanent. C'est-à-dire que le choc énergétique, les problèmes de logistique, etc., c'est un choc d'offre permanent qui fait que la capacité de production, la capacité à générer des flux productifs a baissé de façon permanente. Dans cet environnement-là, il ne faut pas hésiter à freiner la croissance, elle aussi, de façon permanente. C'est ce qui est ressorti d'un certain nombre de discours, notamment de Lagarde, de Schnabel, etc. Donc, ils sont dans une logique où on ne peut résoudre le problème inflationniste que si on agit sur la demande. Donc certes, effectivement, on ne peut pas agir sur l'offre, tout à fait. Une banque centrale n'a pas de levier pour permettre à l'offre de se réajuster et faire baisser l'inflation de cette façon-là. Mais ils ont un point de vue qui est que, face à ce choc permanent, il faut réduire durablement la demande. Alors ça donne quoi ? Ça donne des remontées de taux. Le marché aujourd'hui price 3% de taux de terminal pour la BCE. C'est absolument colossal. Mmh. On part de moins 50 points de base, on arrive à 3%. C'est 3,5% de hausse de taux d'intérêt. Comment l'économie européenne peut encaisser un tel choc de durcissement de politique monétaire ? C'est absolument impossible. Et d'ailleurs, un certain nombre de membres de la BCE disent on va avoir une récession, mais c'est un passage obligé, c'est un mal nécessaire pour ramener l'inflation dans la boîte. Alors d'ailleurs, c'est un discours aujourd'hui qui est tenu par la plupart des grandes banques centrales. À la Fed, c'est un discours qu'a tenu Jérôme Powell aussi, sur le fait qu'on va détruire des emplois, on va peut-être passer en récession. Voilà, Mester encore récemment l'a encore dit. Donc aujourd'hui, on voit bien que les banques centrales sont prêtes, ce qui n'était pas le cas précédemment, à faire rentrer leurs économies en récession pour ramener l'inflation dans la boîte. Ce qui est intéressant, c'est que le marché commence à se dire qu'il y a un risque d'erreur de politique monétaire. Il suffit de regarder notamment les anticipations d'inflation long terme pour la réserve fédérale américaine. Si vous l'ajustez de tout un tas d'effets de liquidité, de primes de risque, etc., on est repassé sous les 2%. Les points morts, ce qu'on appelle les points morts d'inflation 10 ans, lorsque vous les ajustez tous ces effets-là, les anticipations d'inflation implicites, c'est en dessous de 2%. Le marché pense que la Fed va trop en faire, et ça durablement.
Mais c'est fascinant de voir la rusticité de l'approche des banques centrales, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment, comme dans les années 70, focalisé uniquement sur cette inflation. Moi, je pense qu'on n'en arrivera pas là du tout, parce qu'ils ont l'air, finalement, nos banquiers centraux, d'éluder totalement la question de la stabilité du système financier. Or, on voit très bien qu'on va être assez vite rattrapé par des questions qui vont justifier que, comme elles l'ont fait au moment de la période de déflation, et je ne comprends pas qu'elles ne le rejustifient pas non plus comme ça, la question, c'est la réponse, quand on leur disait l'inflation est très loin des 2%, etc., c'était de dire, oui, mais nous, on a une notion globale de la stabilité financière, où les banques centrales disent, oui, mais on regarde aussi les prix des actifs, on regarde aussi les prix de l'immobilier, etc., etc. Et là, on a l'impression que ce discours a disparu et qu'il n'y a plus que l'inflation qui compte au sens strict du terme. Or, Manifestement, si vous regardez les incidents qu'on a déjà mentionnés sur Crédit Suisse, etc., moi, je crains que les marchés ne supportent pas la vitesse de la remontée des taux. Et que donc, là, les questions qui se posent un peu et que se posent des banquiers centraux un peu comme dans un salon, finalement, jusqu'où il faut aller pour... on peut se payer peut-être le luxe d'une récession, etc., mais je pense que le sujet, il n'est pas là. C'est que si jamais on voit que les marchés financiers et que il y a un risque systémique sur... alors, ça vient jamais d'où on le pense, mais ça peut venir d'un fonds, ça peut venir d'une compagnie d'assurance, ça peut venir d'une banque, et on verra à ce moment-là que les questions assez théoriques qu'on se pose sur jusqu'où va aller l'inflation, surtout qu'en plus le raisonnement, il est faux. Vous voyez bien que tous les moteurs de l'inflation sont en train finalement de s'essouffler les uns après les autres. Regardez le prix du fret maritime qui s'effondre, regardez le prix des matières premières qui n'augmente plus depuis quand même très longtemps, voire qui baisse. Regardez tous les indicateurs sur finalement la perturbation ou la fluidité des chaînes d'approvisionnement dans le monde. Bah, vous voyez que...
Mais donc on va arriver plus vite au pivot ? Enfin, ce fameux pivot, entre guillemets.
Sur l'inflation, quand même, c'est important, parce qu'on a eu un glissement, effectivement, d'une inflation qui était générée par un choc exogène, hein, notamment sur les questions logistiques, de transport, etc., vers une inflation qui est beaucoup plus problématique pour les banques centrales, puisque ce sont une inflation qui est auto-entretenue, hein, ce sont ces fameux effets de second tour, c'est-à-dire que ça s'est transmis à la croissance des salaires.
Mmh. Alors, très peu. Encore.
Alors, aux États-Unis, on est entre 5 et 6 % de croissance des salaires en business annuel. Il faudrait
C'est pour ça que les États-Unis, c'est une vraie surchauffe.
Voilà. Et donc, c'est là où est le problème c'est que, certes, il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que l'inflation devrait baisser, mais l'inflation core, l'inflation sous-jacente, elle, va rester extrêmement forte.
Oui, mais du coup, la Fed est obligée de maintenir cette cadence.
Tout à fait.
Et la BCE va être contrainte de suivre. Et Olly Rehn nous a dit 50, 75 ou autre chose. Ça veut dire que...
De mon point de vue, elle ne va pas être contrainte de suivre et elle sera amenée à...
Sinon, l'euro va...
Moi, je n'achète pas un taux terminal de la BCE à 3% comme ce qu'il y a aujourd'hui dans les prix de marché. Je ne l'achète pas. Je pense qu'ils vont capituler un peu au-dessus de 2%. Pourquoi ? Parce que l'économie européenne, à la différence de l'économie américaine, a un certain nombre d'éléments qui font que l'inflation est beaucoup moins auto-entretenue. Et deux, que en plus de ce choc de conditions financières qui réduit la croissance, vous avez un choc énergétique qui fait qu'on aura à coup sûr une récession qui pourrait être assez sévère. Dans cet environnement-là, l'inflation sous-jacente devrait tourner plus rapidement que ce qu'on pourrait observer aux États-Unis.
Et puis là, on a une inflation qui est surtout maintenant tiré par tout ce qui est produits alimentaires, etc. Mais les produits alimentaires, on voit bien que les hausses résultent d'une série de catastrophes, et notamment de catastrophes climatiques, naturelles, ou de concours de circonstances invraisemblables, qui quand même ont peu de chances de se reproduire. Quand on regarde ce qui est dit sur finalement les récoltes dans l'hémisphère nord et à venir peut-être dans l'hémisphère sud, etc., on voit qu'on a quand même des relatives bonnes nouvelles. Donc la hausse des produits alimentaires, elle a rien de structurel en elle-même, à part effectivement les intrants comme l'énergie, etc. Donc le raisonnement de l'inflation structurelle, endogène, oui, il y a des facteurs. Oui, c'est vrai que la transition énergétique, ça va être inflationniste. Oui. On nous dit ça va être autour de 3/4 de point d'inflation en plus par an. Mais c'est est-ce que ça justifie de casser la croissance comme ça? Moi, si on s'en tire uniquement avec une récession et après tout avec on peut discuter à 0,5 point de PIB près, mais vraiment, moi je dis attention à la fragilité de notre édifice financier.
Juste, il nous reste une petite minute. Vous voyez les choses comment pour traduire tout ça dans les portefeuilles ? Qu'est-ce qu'on fait quoi ? On se gave de valeurs défensives ?
Nous, ce qu'on avait fait, c'est on avait protégé les portefeuilles de façon massive. On avait complètement désexposé. Là, il se trouve que les valorisations sont devenues quand même plus intéressantes. On en parlait au début. C'est beaucoup moins asymétrique qu'avant. Lorsque le marché a rallié jusqu'à mi-août, ça paraissait complètement aberrant. Donc, on a désexposé les portefeuilles. Là, aujourd'hui, on a quand même une correction de 9% rien que sur le mois de septembre pour le S&P 500. Ça commence à être un peu plus intéressant. Donc, on a racheté des actions. On commence à se réexposer très progressivement. Est-ce qu'on y va de façon agressive ? La réponse est non, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. En termes de positionnement, je dirais de style, il faut éviter, je pense aujourd'hui, d'avoir des biais trop marqués. Hein. On l'a vu, il y a des rotations d'une violence inouïe sur les marchés qui dépendent évidemment de la des fluctuations de taux. Et la volatilité sur les marchés obligataires va rester extraordinairement élevée pendant longtemps. Hein. Tant qu'on n'aura pas atteint le pic, justement, de remontée des taux des banques centrales, on aura une volatilité qui restera très très importante dans un environnement où la liquidité est extrêmement pauvre. Hein. Il faut le savoir, quand vous traitez sur les marchés aujourd'hui...
Mais il n'y a personne.
Sur notamment les obligations d'entreprise, c'est très compliqué de trouver du papier. On a cet environnement-là qui fait qu'on remet de l'exposition. On a des biais qui sont les moins marqués possibles, hein, sectoriels, de style, etc. Vous savez, tout le débat entre croissance et value aujourd'hui, évitons d'avoir des biais trop marqués. Ce qui va être intéressant, c'est le segment obligataire. On commence à avoir des taux qui sont intéressants.
Et oui.
4% sur le 10 ans américain.
Tina est belle et bien morte.
Ah oui, vous avez sur le crédit à haut rendement américain entre 8 et 9% de rendement. Ça donne envie. Bon, alors attention, on a une récession qui se profile, mais les prix de marché commencent et les spreads de crédit commencent à refléter justement cette récession-là. Si on a la possibilité de regarder à travers la volatilité, d'avoir un horizon d'investissement qui est plutôt moyen à long terme, c'est des points d'entrée qui sont intéressants. Mais il faut avoir l'estomac justement pour encaisser cette volatilité-là.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges. Mathieu Loire, AXA IM, Emmanuel Lechypre pour BFM Business. À très bientôt. Le marché parisien lui reste pour le moment en territoire négatif, mais on essaye de produire un petit effort. On va voir ce qu'en dit notre trader. Dans un instant, on retrouve Andrea Twini qui nous attend chez Saxo Bank. A tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Allez, on file tout de suite sur le marché, rejoindre Andrea Twini qui nous attend chez Saxo Bank et qui scrute pour nous les pulsations du CAC depuis l'ouverture. Bon, on a l'impression qu'on essaye d'effacer un petit peu ce plongeon de début de séance. Est-ce qu'on a du carburant pour y parvenir, Andrea ?
Ah, c'est dur. Après, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on a touché des points bas, et notamment cette zone 5650, on a tenté des rebonds et on a réussi à grappiller quelques points. Après, c'est vraiment difficile de s'installer dans une dynamique vraiment durable, hein, dans ce sens-là. C'est qu'on a toujours les mêmes catalyseurs. On est en début de trimestre, on a les mêmes catalyseurs qui vont se répéter tout au long du trimestre, à savoir crise énergétique, inflation, réponse des banques centrales et donc du coup politique monétaire plus restrictive. Et ces aspects-là, et donc risque justement aussi impact de ces politiques monétaires sur l'économie et donc risque de récession. Et ces aspects-là, aujourd'hui, ils vont continuer de dominer la tendance sur les marchés. Et c'est pour ça que tant qu'on est dans avec ce triptyque-là et tant qu'on a ces interrogations-là, c'est quand même difficile d'envisager un rebond durable pour le CAC. Alors après, essayer d'avoir un petit rebond technique sur des points de support et sur des points bas, ça c'est possible. C'est ce qu'on essaye de faire ce matin, même si on sent que c'est quand même fébrile et très poussif. Mais ça, c'est une possibilité. Après, c'est vrai, rebond durable paraît aujourd'hui compliqué en l'état actuel des choses, tant qu'on n'a pas des améliorations, tant qu'on n'a pas des échos un petit peu plus positifs sur ces trois aspects-là, sur ces trois piliers-là qui sont très importants et qui se répètent en ce moment, trimestre après trimestre, mois après mois. Et après, on parlait de crise énergétique, cette semaine, ça va aussi être important. On aura la réunion de l'OPEP, on parle depuis ce week-end d'une possible réduction de la production de pétrole qui peut du coup avoir un impact là aussi parce que ça va pousser les prix vers le haut. On le voit d'ailleurs, hein, le pétrole qui progresse de plus de 2% et cet impact du coup aussi sur l'inflation qui peut peser sur la dynamique. Donc il faudra là aussi être méfiant. Ça peut avoir du coup un impact aussi sur les marchés cette semaine. Beaucoup d'indicateurs aussi macroéconomiques à attendre. On aura notamment ISM manufacturier PMI aux États-Unis, on aura l'enquête ADP, le rapport sur l'emploi en fin de semaine, donc ça fait beaucoup de choses qui vont être à digérer. Et puis on attend aussi la semaine prochaine avec impatience lancement de saison de résultats et donc retour un petit peu de la microéconomie au premier plan et l'analyse, on va dire, des comptes des sociétés et de l'impact justement de cette nouvelle réalité économique, de la situation économique, du contexte économique actuel sur le compte des entreprises. Et ça aussi, ça permettra peut-être un petit peu de sortir de ce triptyque inflation, banque centrale, énergie qui aujourd'hui domine les marchés et qui peut-être empêche un peu de mouvements un peu différents que ceux qu'on a pu observer sur les derniers mois, sur les dernières semaines. Mais en tout cas, voilà, pour la séance d'aujourd'hui, peut-être qu'on peut tenter encore une fois une poussée sur rebond technique. Il faut surtout essayer de maintenir ce support à 5650 pour espérer en tout cas un rebond et pour espérer en tout cas avoir une vision un petit peu meilleure du marché d'ici quelques séances.
Merci beaucoup Andrea Twini, Saxo Bank qui nous accompagnait ce matin pour lire graphiquement la séance du jour, -1,19 pour le CAC, 5693 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et comme chaque lundi à 11h35, c'est Frédéric Lorenzini qui est avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
Et vous vous intéressez ce matin au fonds Easy ESG Eurozone Biodiversity Leader. C'est un auditeur qui nous demande ce qu'il faut penser de ce fonds.
Alors c'est quoi ce Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders?
Ça c'est très complet.
C'est un ETF. Les ETF souvent on aime bien parce que c'est pas cher, c'est assez transparent. Ça prend le bêta du marché, ça prend l'indice. Bon, sauf qu'en ce moment, vu la configuration des marchés actions, le bêta, souvent les investisseurs préfèrent l'alpha. Easy, bah c'est une gamme d'ETF gérée par BNP. Et puis c'est un ETF qui suit l'indice éponyme, l'indice du même nom. Donc c'est un Eurozone Biodiversity Leaders. Ça investit dans des leaders européens qui sont censés être favorables à la biodiversité.
Alors dites-nous en plus sur cet indice.
Alors cet indice, il a été conçu par Euronext, donc la bourse entre autres de Paris. Il est calculé par Iceberg Data Lab, qui est une société française. Il existe depuis plusieurs années et Iceberg conçoit des formules, est une base de données autour de l'environnement qui vend ses outils à des gens comme Amundi, Osiam, AXA, Fulcrum. La méthodologie biodiversité, elle existe depuis 2019. On a regardé le document, il fait 21 pages. Ça semble assez sérieux.
On trouve quoi dans cet indice?
Bon, on va trouver des valeurs européennes comme AXA, comme Air Liquide, Gecina, Lufthansa, Michelin, Zalando. Bref, on a une soixantaine de ce qu'on appelle des blue chips, des valeurs d'une certaine surface. Alors, certains secteurs sont exclus, comme le tabac, l'extraction minière de charbon, le gaz de schiste, et puis les armes controversées. Je cite les armes controversées, parce qu'il y a des armes qui ne sont pas controversées,
d'accord,
qui sont admises dans les guerres, puis les armes controversées, les grenades à fragmentation, les mines antipersonnelles. Et ça, je trouve que c'est assez emblématique, parce qu'il y a on exclut aussi les entreprises où il y a une controverse, c'est-à-dire les entreprises qui sont un peu dans l'œil du cyclone. Et je trouve que dire on va écarter ce qui est controversé, je trouve ça personnellement un petit peu suiviste.
Bon,
je trouve que ça reflète pas vraiment une conviction très forte.
Je vous écoute et je me dis qu'on trouve quand même un peu de tout.
Oui, on trouve de tout, on trouve du Pernod Ricard. Alors c'est vrai que la question de l'alcool ne fait pas encore sans doute partie des grosses controverses, mais surtout moi ce que je trouve sur cet indice un petit peu pas critiquable ni douteux mais questionnant, c'est l'approche best in class. C'est-à-dire que mis à part les secteurs qu'on écarte, on dit bah même les secteurs comme l'énergie qui sont pas très bons pour la biodiversité, on va pas exclure ce secteur, on va prendre ceux qui sont meilleurs. C'est l'approche best in class et je trouve ça, je dirais pas hypocrite, mais je trouve ça un petit peu jésuite. Je trouve qu'à un moment, on est un peu sur de la construction mentale sur laquelle moi j'ai un peu du mal à suivre.
Malgré tout, est-ce que ça donne de bons résultats?
Bah écoutez, l'ETF vient de sortir, on verra bien. L'indice, lui, existe depuis un peu plus longtemps. Year to date, depuis le début de l'année, il fait moins 24%. Et puis, sur 52 semaines, il fait moins 19%. Bah, si on compare cette performance de l'indice à celle de l'Eurostock 50, year to date, l'Eurostock 50, depuis le début de l'année, il fait moins 23. Donc, c'est mieux que cet indice. Et puis, sur un an, il fait moins 17. C'est mieux que cet indice. Si on s'y regarde le CAC 40, depuis le début de l'année, il fait moins 19,50 à comparer au moins 24 de cet indice biodiversité. Sur un an, il fait moins 11,60%. Donc, la performance de l'indice, c'est pas convaincant, quoi. Bon. Sur year to date, ouais, et depuis le début de l'année.
Frédéric Lorenzini, Patrimoine 24. Merci Frédéric. Le marché parisien, lui, il tente de produire son effort et sa remontée, moins 1,15%, 5695 points. On revient à portée, on va dire, des plus hauts du jour.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et pour répondre à toutes vos questions, Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu. Bonjour Christian, prêt?
Bonjour Cédric.
Bon, normalement on devrait avoir Stéphane Van Uffel, mais bon, il arrive.
Hein. On essaie de combler. Hein.
Voilà, on va commencer avec vous en attendant que Stéphane nous rejoigne. Voilà, je l'aperçois qui nous rejoint. Vous êtes prêt Stéphane?
Écoutez, on m'oublie.
Ah, on vous a oublié.
On m'oublie, j'étais derrière la porte.
Ça, oh là là.
Avec ma petite bouteille.
Bon, ben voilà. On l'a retrouvé.
On l'a retrouvé.
Vous êtes prêts?
Toujours.
Allez. On démarre avec cette question que vous adresse Thomas Christian. Thomas voudrait savoir s'il a quelle proportion de son épargne il doit investir en bourse. Et il a entendu parler d'une règle ancienne qui était celle du 100 moins son âge. Et elle se demande si ça demeure toujours d'actualité.
Alors, oui, cette règle demeure toujours d'actualité, mais il faut un peu compléter par d'autres critères que l'âge. Donc, prendre un tout petit peu de hauteur, effectivement, dans le contexte actuel, l'une des questions qui se pose, c'est quelle proportion de son épargne investir en bourse. Alors, une vieille règle, en fait, c'est une règle plutôt appliquée dans les pays anglo-saxons, qui dit qu'il faut investir 100 moins son âge en bourse. Donc, à la naissance, il faudrait investir, comme vous avez beaucoup d'années devant vous, 100%, et puis à 20 ans, 80%, 50% à 50 ans, etc.
Bon, ça nous ramène à nos 150 euros.
Alors, ça nous ramène.
De la chronique de tout à l'heure.
Ça peut nous ramener, effectivement. Oui, alors oui et
le
non.
Temps,
ça nous
le
ramène
temps, la valeur
au temps.
Au temps.
Et l'effet de levier du temps, et ça nous ramène aussi à la bourse, et sans doute malgré donc, alors, la tendance du CAC 40 aujourd'hui, là, un des placements les plus rentables à long terme. Donc, oui, ça reste d'actualité, mais pourquoi il y a d'autres critères qui doivent être pris en compte pour savoir quelle proportion de votre épargne vous devez investir en bourse. Enfin, il faut prendre deux exemples très précis. Prenons un couple, 45 ans, propriétaire, résidence principale, secondaire, bon, avec une certaine visibilité sur le plan professionnel. Donc, si on applique cette règle du 100 moins son âge, ils devraient investir en bourse 55% de leur épargne. Voilà. Mais si le principal objectif de ces gens-là, de ce couple-là, est la retraite, on peut considérer, dans la condition actuelle du marché, avec des marchés obligataires pour le moins volatiles, on peut considérer que 55%, c'est pas assez, qu'il faut peut-être monter à 80%. À l'inverse, si vous avez 45 ans, vous n'êtes pas propriétaire de vos logements, vous n'avez jamais investi dans l'immobilier, que vous envisagez donc alors d'acheter votre premier logement d'ici 3-4 ans, la bonne proportion à mettre en bourse, c'est peut-être zéro, tout simplement, et pas, et pas 55%.
Donc voilà. Ça veut dire que tout dépend pas de l'âge.
Voilà, tout dépend pas de l'âge, tout dépend aussi de votre aversion au risque, tout dépend de votre niveau de revenu, dépend de votre niveau de patrimoine. Et en fait, au revenu, on préfère à la notion de l'âge, la notion d'horizon de placement. Investissez en bourse, je dirais, la totalité de votre épargne financière dont vous savez que vous n'aurez pas besoin pendant les 10 prochaines années, 5 prochaines années si vous êtes un peu plus spieler. Voilà. Donc, Thomas, c'est poser une très bonne question et cette. Peu ou prou, c'est cette règle ancienne reste d'actualité, mais elle doit être complétée par d'autres critères.
Vous avez
juste une petite
précision là-dessus.
Bah, une petite précision pour Thomas, parce que moi qui suis un grand fan de Warren Buffett, a apporté une petite précision à cette règle du 100 moins l'âge. C'est par rapport à la notion de risque, en fait. Donc lui dit, en fait, vous prenez une notion de risque dans votre épargne financière, donc c'est pas bourse contre le reste des actifs immobiliers, etc., etc. C'est à partir du moment où vous choisissez d'investir, par exemple, sur un contrat d'assurance vie, si on rapporte à la française, vous prenez votre âge, vous prenez 100, vous enlevez votre âge et vous voyez ce que vous mettez sur le fonds euro et ce que vous mettez, en gros, sur des UC. Voilà. Bon, pour préciser à Thomas, à la limite, s'il veut commencer
par... Plus la part de risque que forcément la part d'actif.
Plus vous êtes jeune, plus vous pouvez y aller en UC et plus vous approchez de la retraite.
Ça revient un peu au même.
Pour préciser à la française, préciser qu'à ce moment-là, on peut aller sur des trucs très, très innovants, très dangereux quand on est très jeune et qu'en vieillissant, sachant qu'il est américain, donc lui il investit toujours en bourse. Ouais. On va sur du Wells Fargo et du Coca-Cola, quoi, en gros.
Voilà. Même très vieux
maintenant.
Question de Sophie. En cette fin d'année, elle s'interroge sur les solutions qui s'offrent à elle en matière de défiscalisation. Et elle se demande si les produits qui permettent de réduire la note fiscale ont encore suffisamment d'intérêt par rapport aux risques que l'on prend, Stéphane.
C'est une bonne
des
question.
Produits à gomme fiscale.
C'est une très bonne question, Sophie. Alors, on se connaît depuis assez longtemps, Cédric, hein, même si on ne fait pas nos âges, enfin, surtout vous. Mais l'idée, c'est qu'en fait, l'alpha et l'oméga, ce n'est pas la fiscalité. Je le répète, pour mettre à l'aise tout le monde chez Net Investissement, une grande partie de notre activité et donc de nos gains vient de l'optimisation fiscale. Donc, je ne suis pas là pour combattre ça. Je dis juste attention. Ne prenez pas un investissement, quel qu'il soit, uniquement pour la carotte fiscale. Non. C'est un moyen de vous inciter à le faire. Ce n'est pas un cadeau. C'est si vous le faites, c'est parce qu'en fait, en face, vous prenez un risque supplémentaire ou vous engagez sur une durée supplémentaire, etc. Donc pour répondre à Sophie, évidemment, si elle parle de défiscalisation et qu'elle met tout de suite la notion de risque, c'est que je pense qu'elle va s'intéresser plutôt aux produits de fin d'année, parce qu'on est en octobre, on arrive un peu au moment où la note fiscale est arrivée. Donc on va parler de FIP, de fonds d'investissement de proximité, d'FCPI, de fonds communs de placement dans l'innovation. Bien sûr qu'il y a un intérêt aujourd'hui, puisque la réduction d'impôts est redevenue plus intéressante qu'elle ne l'a été à un moment donné. Donc cette notion de prime de risque, c'est-à-dire quel est l'avantage fiscal qu'on vous donne d'un côté pour absorber finalement le fait que vous investissez dans de l'économie de proximité, donc des entreprises plutôt petites, non cotées, ou carrément dans l'innovation, donc des entreprises qui ont un risque potentiel de ne pas réussir soit leur amorçage, soit leur développement de projet. Donc FIP, FCPI, Sophie, oui, attention, là on est sur des produits quand même très risqués, avec un vrai risque en capital. Et la carotte fiscale, si elle est là, c'est pas pour rien. Maintenant, en défiscalisation, je vais aller un peu plus loin pour pousser le bouchon. Il y a une deuxième enveloppe, hein, on en a parlé, on a touché du doigt tout à l'heure, c'est le plan d'épargne retraite. C'est ce que je ne connais pas l'âge de Sophie, mais là aussi, on le fait pas pour la défiscalisation. Je vais pas vous refaire l'article. On le fait pour la gestion financière de son épargne
on a
à très long terme. Mais il y a un vrai avantage fiscal à le faire parce qu'aujourd'hui, finalement, si vous êtes un peu malin et que vous reprenez la typologie d'exemple de Christian tout à l'heure par rapport au PEA, sur le PEA, vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire, en fait, en gros, les sommes que vous allez amorcer au départ vont vous créer des réductions d'impôts que vous allez réinvestir les années d'après. Et au final, vous finissez par faire des petits avec vos réductions d'impôts cumulées. Troisième point de défiscalisation, alors, encore une fois, et il reste 3 mois à peine, ma chère Sophie, si vous voulez profiter du dispositif Pinel. Je suis un peu obligé de parler d'immobilier.
Je pensais qu'il n'allait pas en parler.
Bah, je suis obligé quand même. Bon, non, mais je suis obligé parce que si elle parle de risque qu'on prend, à un moment donné, voilà, vous avez une fiscalité qui est importante. Si c'est pas pour tout de suite, si c'est pas une seule année que vous voulez avoir un impact, réfléchissez à étaler cette réduction d'impôt sur plusieurs années au travers d'un actif moins risqué.
Mettons les pieds dans le plat. Oui. Là, justement, il ne reste que 3 mois pour le Pinel.
Le Pinel classique.
Ouais.
Voilà.
Est-ce qu'on risque pas d'avoir un peu des fins de programme? Enfin, est-ce que c'est pas déjà trop tard de jouer du Pinel à 3 mois de...
Ah, bah non, parce qu'en fait, d'abord, mon cher Cédric, alors là, on va pas crever le truc tout de suite, parce qu'il y a un super Pinel qui arrive, hein, la loi, elle existe.
Enfin, certains nous disent que c'est un Pinel moins.
Hein. Non, mais alors, c'est pas un Pinel moins, c'est un Pinel qui est plus contraignant d'un point de vue promotion immobilière. Mais les promoteurs, vous inquiétez pas, ont déjà préparé des produits pour après. Bon. Là, on explique simplement qu'aujourd'hui, dans les stocks, je vous passe le détail de toutes les contraintes, les stocks qui étaient prévus pour 2023-2024, parce que ce que vous allez réserver aujourd'hui, ma chère Sophie, ce ne sera pas livré avant 1 an, voire 2 ans, hein, vu la problématique de stock qu'il y a. C'était des produits qui auraient pu très bien rester dans un Pinel classique sans changement de loi, ni impact, loi climat et résilience, etc. Bon. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus.
Ok.
La seule, effectivement, petite précision, c'est que si vous voulez défiscaliser avant la fin de l'année, si vous faites un Pinel, vous allez défiscaliser, commencer à défiscaliser le jour de la livraison du bien de mémoire, c'est-à-dire dans 2024. 1 ou 2 ans. Tandis que si vous souscrivez un PER, vous pouvez défiscaliser dès aujourd'hui sur les revenus encaissés cette année.
Voilà, Sophie, quelques éléments à avoir en tête autour de ces produits qui permettent de réduire la facture fiscale. Question de Charles qui a comme projet d'acheter un appartement pour y habiter et il voudrait savoir sur quelle durée vous lui recommanderiez d'emprunter.
Alors, ça dépend un petit peu du... S'il veut prendre, on n'en sait pas beaucoup. S'il veut prendre le moins de risques possible, c'est de façon très simple, on peut lui dire qu'il devrait emprunter sur la durée la plus courte parce que plus vous augmentez la durée, plus les taux augmentent. Aujourd'hui, sur 15 ans, vous empruntez autour de 1,4% avec un bon dossier. Et sur 7 ans, c'est autour de 1%. En fait, en pratique, on se rend compte que la durée sur laquelle les particuliers empruntent, c'est une variable d'ajustement. C'est-à-dire les banquiers font tourner leur moulinette. Mm-hmm. Ils commencent, par exemple, sur 7 ans. Ils se rendent compte que la mensualité d'emprunt dépasse largement le ratio de 33%, donc de mensualité sur les revenus. Puis ils augmentent progressivement jusqu'au moment où la charge, financière est acceptable. Donc, 2 points importants. D'abord, il faut conserver, bien sûr, ce qu'on appelle le reste à vivre significatif pour ne pas se serrer la ceinture au quotidien. Rembourser un crédit, se constituer un capital, c'est bien, mais il faut vivre aussi. Ensuite, plus vous empruntez sur une durée longue, plus vous avez de chances de rembourser avant l'échéance du prêt. Et donc, plus vous avez intérêt à négocier l'absence de pénalité en cas de remboursement anticipé. Alors, une petite remarque, un tout petit peu technique, mais c'est là où on voit que les lièvres, parfois, se cachent dans les détails. Il faut savoir qu'un certain nombre de banques accordent l'absence de pénalité en cas de remboursement anticipé, mais uniquement si vous remboursez par anticipation au-delà de 8 ou 9 ans, sachant que la moyenne est remboursement anticipé à 7-8 ans. Bon. Une autre façon un peu sioux qu'il faut regarder, c'est que parfois on vous accorde la gratuité, sauf si le jour du remboursement, vous choisissez de diminuer la mensualité et non la durée. C'est en fait, en gros, on vous accorde la gratuité si vous choisissez l'option la moins intéressante pour vous. Donc, bon, donc voilà. Donc tout ça, il faut regarder un petit peu dans les détails. Donc, Charles, si vous voulez prendre le moins de risques, empruntez sur la durée la plus courte possible, donc, mais qui vous permet quand même d'avoir un taux d'endettement inférieur à 30%. Autour de 30%.
Un conseil similaire ou pas?
Oui, évidemment.
Déjà, il faut qu'il obtienne son prêt.
D'abord, il faut obtenir son prêt.
Déjà,
faut
avec la hausse des taux, justement,
il faut que ça rentre dans le taux du sûr.
Le 1er octobre, c'est,
mais, a priori, ça va être plus facile. Évidemment, il faut l'appliquer à la capacité de vivre bien en ayant fait un crédit. Maintenant, pour rester dans la notion technique un peu de Christian et compléter ce qu'il disait à Charles, n'oubliez pas, a fortiori, en période de forte inflation, nous avons en France la possibilité d'avoir un taux qui est fixe. Donc, si vous empruntez aujourd'hui à 2 et que vous avez 2% d'inflation en moyenne, tous les ans, plus vous allez emprunter sur du long terme, moins votre crédit va vous coûter cher parce que pendant ce temps-là, vous vous enrichissez. Donc c'est un petit peu complexe.
À condition que vos revenus augmentent.
Mais les revenus augmentent. De toute façon, mon cher Christian, c'est mécanique. L'INSEE peut te sortir tous les chiffres, même si ça augmente moins vite que l'inflation. C'est mécanique. Aujourd'hui, sur un prêt sur 20 ans, vous allez quasiment avoir un coût de crédit qui représente entre 15 et 20% de moins que ce qui représentait par rapport à votre pouvoir d'achat au moment de la souscription. C'est important à prendre en compte parce que sur 7 ans, on n'aura pas cet effet-là.
Question de Karine à présent. Elle souhaite orienter une partie de ses liquidités vers les SCPI, qui lui semble être un bon placement en ce moment, mais elle ne sait pas laquelle privilégier ou lesquelles privilégier. Et elle voudrait des conseils.
Alors c'est une question qui, on enfonce une porte ouverte, parce que la SCPI en ce moment, si c'est bien un actif dont tout le monde parle, évidemment c'est celui-ci. La collecte encore a été vérifiée, les Français plébiscitent cet investissement-là. Alors je me suis dit, comment répondre à Karine aujourd'hui? Je ne vais pas reparler des marronniers, on va dire ça comme ça, puisque j'ai un journaliste en face de moi, enfin des journalistes en face de moi, et parler des grandes SCPI très connues. Je vous en ai sélectionné deux, ma chère Karine, parce que je les aime bien, parce qu'on les propose chez Net Investissement, et pour une fois, ça m'intéresse d'en parler. C'est des petites maisons de gestion qui sont moins importantes que les autres, moins connues sur la place. Je vais vous parler d'Intergestion, que vous connaissez sans doute, d'une SCPI qui a été créée en février 2021. Il s'appelle Crystal Life, dont finalement le but est d'investir dans les besoins essentiels de la vie, santé, nourriture, logement, commerce, etc., etc. Donc évidemment, on est sur une SCPI qui n'a pas une grande capitalisation, mais qui a une façon d'aborder les choses assez intéressante. Je vous l'explique en deux mots, Karine. Ce qui leur permet quand même de proposer un très bon rendement, hein, entre 5,20 et 5,30 prévisionnels sur 2022, selon les trois trimestres déjà dépassés, enfin qui viennent de se terminer pour le troisième. Ils regardent en fait, grosso modo, qui est le locataire. Et souvent, ils vont acquérir un bien avec un locataire déjà dedans ou déjà positionné. Et en fait, au lieu de viser uniquement l'aspect emplacement, 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 ou l'aspect actif immobilier pur, ils vont aussi viser le bail, l'engagement du locataire. Donc en fait, ils inversent un petit peu la tendance, et je trouve ça assez intéressant. Donc Crystal Life Intergestion, je pense que c'est un bon investissement aujourd'hui, un bon rendement. Elle est assez récente, ce qui veut dire que ça donne aussi des perspectives à 1, 2, 3 ans peut-être de revalorisation, parce que pour l'instant ils n'ont pas encore eu le temps de re-regarder la valeur des actifs déjà acquis. Mais c'est une SCPI qui marche bien, puis Intergestion avec Crystal Rent, sa SCPI de commerce qui a très bien traversé le Covid, a prouvé qu'il savait faire. L'autre société de gestion, c'est Sogénial. On en parle beaucoup en ce moment de cette société de gestion. C'est une petite société de gestion qui est sur le marché depuis des années, qui faisait beaucoup de club deals et qui s'ouvre au marché du retail, donc des particuliers. Et là, je vais vous parler non pas de la SCPI dont ils parlent tout le temps, qui s'appelle Cœur de Région, mais de Cœur d'Europe, qui est une SCPI qu'ils ont créée il y a un an. SCPI, Cœur d'Europe, européenne. Donc le principe, c'est de viser des actifs en Europe, surtout des pays limitrophes de la France. Suivez mon regard, ce qui explique de se différencier un peu de ce que tous les autres ont fait en allant sur l'Allemagne, la Hollande, les pays de l'Est, etc., etc. Là, on va être sur la Belgique, avec des actifs à Bruxelles, sur l'Espagne, avec des actifs à Barcelone, et demain peut-être sur le Portugal, avec des actifs à Lisbonne. L'intérêt, là aussi, on vise principalement des actifs qui sont avec des baux très longs. Je vous donne un seul exemple. La dernière acquisition, ce sont des bureaux et des agences de la troisième banque espagnole BBVA, avec un bail signé sur 20 ans. Bon. Donc évidemment, c'est un actif qui peut être rassurant, là encore, par le locataire. Donc on fonce. Je suis obligé de le dire. Attention, performance passée ne présage pas des performances futures. Rendement en 2022 annoncé, on sera autour de 5%. Mais comme c'est une SCPI 100% européenne, puisqu'il n'y a pas de France, la fiscalité fait que le levier serait équivalent à un rendement au moins d'un point supplémentaire.
C'est dur parfois.
Mais à prendre avec des pincettes. C'est long et j'essaie de vous laisser un petit peu de temps.
Un petit mot juste d'un bouquin à propos de SCPI.
Oui,
Christian,
les SCPI
que vous lui recommandez.
Oui,
de
les SCPI pour
Paul Bourdois, qu'on
sortir.
Connaît bien.
Paul Bourdois, que vous recevez régulièrement sur votre antenne. Aux revenus, on connaît aussi bien. C'est vrai que les SCPI, ben, c'est un placement populaire, mais c'est aussi un petit placement, c'est un placement technique. Donc, il est nécessaire d'être bien documenté. Là, c'est un petit ouvrage, ça coûte pas cher, une dizaine d'euros. Et c'est très, c'est à la fois pédago, ça parle vrai, et puis c'est très précis, notamment bravo pour le paragraphe concernant les pages, concernant la fiscalité des SCPI. C'est très bien fait. Voilà, un ouvrage à mettre
la SCPI pour les nuls, Paul Bourdois. Dernière question, il vous reste une minute pour répondre à Denis. Un commercial lui propose d'acheter une chambre d'hôtel aux États-Unis pour 45 000 euros. Et lors de son dernier appel, on lui a évoqué un rendement de 35%. Il se demande s'il doit accepter cette proposition.
Oui, bien sûr, Denis. Enfin, plutôt surtout pas. Non, grande prudence. En fait, dans cette proposition commerciale, il y a au moins...
Plusieurs trucs qui doivent vous faire tiquer.
Ouais, il y a au moins deux choses qui doivent vous faire tiquer. La première, c'est une proposition commerciale qui vient de l'étranger. C'est vrai que la protection de l'épargnant est réduite à l'étranger dans un certain nombre d'aigres fins agissent depuis l'extérieur de nos frontières. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui doit vous faire tiquer, c'est bien sûr le taux qu'on vous annonce, quelques 35% de rendement, alors que 35% de rendement peu ou prou garantie, que ce soit en immobilier, en placement financier, en bourse, ça n'existe pas. Donc prudence, hein, aux revenus, on conseille régulièrement des épargnants qui se font malheureusement encore avoir par ce type d'offres commerciales. Il n'existe
Denis
pas
a bien
un
fait
marché.
D'écrire.
Il n'existe pas un marché des placements réservé à une pseudo-élite parisienne ou autre. Les conditions financières s'imposent à tous.
Merci beaucoup Christian. Christian Fontaine, Le Revenu, Net Investissement et Stéphane Van Uffel. Dans un instant, c'est 60 minutes business. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Sandra Gandoin, votre programme du jour.
On va parler des députés qui font leur rentrée aujourd'hui avec au menu l'examen de la réforme de l'assurance chômage. Les débats s'annoncent tendus. On va en parler avec Caroline Morisseau. On vient sur la marche arrière de Londres sur les impôts des plus aisés. Le plan de Liz Truss a trop inquiété les marchés. Elle est obligée de céder. On en parlera avec Sophie Loussouarn. Et puis, nous parlerons aussi des alternatives au pétrole avec Afirène qui vient d'ouvrir sa grande bioraffinerie en Moselle. Son directeur général nous expliquera ce choix. Et puis, à 12h30, comme tous les jours, Lorraine Goumeau répondra aux questions des auditeurs téléspectateurs, Cédric.
C'est à suivre dans un instant. Le marché parisien, lui, perd 1,05%. On a réduit un petit peu la marque, 5700 points. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin dès 10h. Très bonne journée.